franceinter.fr.
Réfugié syrien, la deuxième vie, un reportage de Vanessa Descours.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bonjour.
Bonjour.
On ne peut pas y avoir un truc de trottoir, il faut que je me rende dans le
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
On fait le tour du quartier, Oussama nous montre ses petites habitudes.
Donc, d'accord.
Vous faites partie
c'est gentil.
Du tour, évidemment.
C'est très gentil. Tu vas bien?
Oui, bien sûr. Oui.
Ouais.
هذا المحل اللي نشتري منه المدام تري جانتي معنا وكثير حبابه
voilà le marché primeur où j'ai l'habitude de venir et on est très bien accueilli, la dame est très gentille. Quand je viens avec Mazem, mon fils Mazem, on repart toujours avec un petit cadeau d'ici.
Et ben, en tous les cas, j'espère plein de bonnes choses et que la vie elle va te sourire et la chance aussi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, inchallah.
En tous les cas, monsieur et madame aussi, ce sont des gens qui donnent vraiment de leur cœur et j'ai vu que c'était des gens super... Ah ouais, c'est vraiment des gens avec un grand cœur. Ce qu'ils ont fait, ouais, franchement très très bien.
Ouais. Oui, merci beaucoup.
Ça peut venir avec une boîte de Kleenex,
ça. On m'avait pas prévenu, moi.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Oh bah bah oui. Non, aller acheter des fruits et des légumes avec vous, c'est émouvant.
Nous sommes dans le nord de la France, à Lambersart très précisément, c'est juste à côté de Lille. Et nous allons rencontrer une famille de Syriens qui est arrivée ici il y a un peu plus d'un an, c'était en juillet 2015. Et elle est arrivée par ses propres moyens. J'entends par là qu'elle a obtenu un visa à l'ambassade de France en Turquie, à Ankara. Et ensuite, elle s'est installée ici, dans le nord de la France. Dans un tout premier temps, elle a même été accueillie par une famille, par des particuliers qui vivent dans la même ville.
C'est le seul Syrien que je connaisse qui aime la pluie, le froid et les nuages.
Il va être très heureux ici. Et le petit, il a quel âge?
3 ans.
3 ans.
Oui, 3 ans. Il s'appelle Mazen.
Très bien.
Tchouda. Ben, j'attends le best papa.
Oussama, vous êtes arrivé avec votre famille, Layal, votre épouse et les deux enfants qui ont 3 et 2 ans. Vous êtes arrivé en juillet 2015 et 3 jours avant votre départ, vous étiez à ce moment-là en Turquie. Vous apprenez qu'une famille française du côté de Lille va vous héberger. C'est quoi votre première réaction à ce moment-là ?
J'ai été assez embêté que ce soit une famille qui nous accueille, qu'on soit accueilli par une famille et j'ai eu très peur à ce moment-là. J'ai eu très peur parce que je n'avais aucune idée de comment on allait interagir, que ça allait être un nouveau environnement. Et j'ai eu peur aussi qu'on soit complètement dépendant de cette famille qui allait nous imposer sa vie ou des choses.
Et au final, comment ça s'est passé ?
Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est la meilleure chose qui ait pu nous arriver. Que ces personnes, c'était des personnes très bien, formidables, qui nous ont beaucoup aidés. Et c'est grâce à eux qu'on a pu être vraiment entourés par la société française, par intégrer la société et bénéficier d'un très fort soutien.
Parce que c'est ce qui est assez remarquable, entre guillemets, ce qu'on va dire dans votre parcours, c'est qu'il passe beaucoup par des initiatives personnelles, donc la famille d'accueil, des initiatives locales, un réseau très local et finalement... assez peu de contact avec les structures de l'État. C'est ça la marque en fait de votre parcours français ici.
C'est effectivement la société française, en fait, la société civile française qui nous a aidés. J'ai l'impression que le gouvernement français voulait juste qu'on prépare nos documents administratifs pour venir et ça s'arrêtait là. Alors qu'ici, c'est vraiment notre entourage direct qui nous a aidés et évidemment aussi avec l'aide de notre assistante sociale du CSAS de Lambersart. Et sans ça, moi, j'avais vraiment cette image d'être en train de nager ou de me noyer dans un océan administratif ici en France.
Sans ce réseau local, vous pensez pour reprendre votre métaphore, que vous seriez noyé dans cet océan de papier.
C'est sûr que j'allais risquer de me noyer dans cet océan administratif, et je pense que j'en aurais été au point de chercher quelqu'un dans la rue qui parle arabe pour pouvoir m'aider et comprendre ce qui était en train de se passer et ce que je devais faire.
Vous êtes chauffagiste, c'est ça votre métier ?
Oui, je suis chauffagiste et climatisation.
Vous avez déjà été approché par des employeurs de la région. Vous avez déjà eu des entretiens pour le travail. Mais c'est la langue qui bloque à chaque fois, c'est la langue française.
Oui, oui. J'ai fait plus de fois une rencontre.
J'ai effectivement passé plusieurs entretiens et les gens étaient assez impressionnés par mon profil et mon expérience et ils me disaient « Apprends juste le français et nous on aimerait vraiment beaucoup t'embaucher et que tu viennes travailler avec nous ». Et j'ai été ici assez surpris parce qu'on demandait plus des compétences en termes de climatisation et tout ce qui était air froid que le chauffage en lui-même.
Quand vous êtes arrivé ici, en France, vous attendiez à ce genre de parcours ? Vous aviez imaginé autre chose ?
Moi, j'ai vraiment une ambition très forte d'être un modèle ici du réfugié syrien, de pouvoir m'intégrer, trouver un travail, avoir ma société ici, me développer. J'ai vraiment cette ambition-là et qu'on puisse dire voilà, il y est arrivé et voilà un excellent modèle de réfugié syrien ici en France.
Bonjour, madame Martine.
Comment ça va?
Ça va bien?
Ça va. J'ai dit que je passais aujourd'hui parce que je suis à la bibliothèque à côté.
Vous le connaissez comment? Vous connaissez comment la famille?
Par des amis. Voilà.
Je ne vous connais madame pas. Fanny.
Fanny, voilà. Elle m'a dit, écoute, une famille est arrivée ici à Lambersa. Est-ce que tu aimerais faire un peu d'accompagnement, de conversation?
Madame Martine.
Et je viens le lundi.
C'est quoi l'accompagnement?
L'accompagnement, c'est l'aider à être le plus à l'aise possible avec la langue française pour trouver un travail. Je venais justement parce que Zama m'avait dit qu'il était en pourparlers pour trouver un travail. Donc je voulais savoir où c'en était.
Je voudrais boire un café avec cigarette dans la cour.
Très bien.
Merci.
Aïe.
طيب غني لها عبد الله من أ للديز يلا مازن
Avec Layal, qui est donc l'épouse d'Oussama, là, on vient d'avoir une visite, celle de Martine, qui fait partie de ces personnes autour de vous, qui vous épaulent, qui vous entourent. C'est, après ce que vous avez traversé, j'imagine à quel point ça fait chaud au cœur de voir tout ça.
Je suis très contente quand ces personnes viennent nous rendre comme ça des visites à l'improviste. C'est quelque chose de très très positif et qui nous apporte beaucoup dans notre vie ici.
Vous avez aussi des projets professionnels, vous ?
J'ai évidemment vraiment une ambition professionnelle ici, mais je pense que ce qui peut être difficile pour moi, le fait de porter le voile, même si j'apprends très bien le français, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits ou des institutions publiques ou des administrations où l'accès au travail là-bas me restera quand même difficile.
Dans ces regards que vous interprétez comme étant malveillants à votre égard, vous pensez que c'est quoi ? C'est le voile qui fait peur ou c'est le passeport syrien ?
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence en fait. Que les gens ne font pas la différence, que forcément pour eux ça va ensemble. C'est-à-dire que j'ai une identité syrienne, du coup je porte le voile et que ça va ensemble et que c'est un tout pour eux.
Alors ça, c'est spécialité syrienne. Ça, c'est des sablés fourrés à la date. Et ça, c'est vraiment la spécialité syrienne. Donc.
Très, très bon. Très, très bon.
Très, très, très bon.
Oui.
Mazan, je suis gâtée.
Il dit à Homme, c'est un restaurant qui s'appelle Bon Appétit. Il s'était jamais posé la question de ce que ça voulait dire. Et il a compris en arrivant en France que voulait dire le nom de ce resto à Homme qui s'appelle Bon Appétit.
Alors là, on se dirige chez Isabelle et Pierre, c'est-à-dire les particuliers, la famille qui a accueilli la famille d'Oussama durant 5 mois dans leur maison à Lambersart.
Isabelle, Pierre.
C'est mon frère, Isabelle, c'est ma sœur.
Isabelle, comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure qui a fait que vous avez des liens effectivement très forts avec la famille d'Oussama? Mais à l'origine, comment vous vous retrouvez là?
C'est une colère en fait qu'on a pris au fur et à mesure de voir le sort qui est réservé aux réfugiés en France. Donc on s'est dit qu'il fallait prendre nos responsabilités.
Donc si l'État ne le fait pas, nous, citoyens engagés, nous le faisons à votre place?
C'est ça. C'est ça, avec nos moyens d'individus et d'associations, et voilà.
On n'avait aucun critère, on a juste dit on ouvre notre porte, on a maximum de quoi accueillir 2 adultes avec 2 enfants, et c'est tout, point final. Aucun critère de religion, on a entendu après pourquoi des chrétiens, des musulmans, ça c'est pas le problème. On avait avant tout besoin de poser un acte en rapport avec nos convictions fortes, pour vivre nos valeurs d'accueil qui nous ont été transmises, qu'on a envie de transmettre. Donc vis-à-vis de nos enfants, c'était aussi quelque chose d'important.
Dès le lendemain de leur arrivée, je leur avais dit « on se lève très tôt et on part pour la préfecture ». On y a passé une bonne journée et on est ressorti hyper heureux d'avoir le titre de séjour avec autorisation immédiate de travailler.
On était hyper heureux, donc ah oui. Vous vous incluez déjà dans l'histoire.
Ah oui, parce que j'ai eu le sentiment de que c'était pas si simple, et puis je savais pas ce qui m'attendait, et on a rempli tout un tas de dossiers, donc tout de suite, j'ai dû me renseigner auprès de Oussama El Ayal sur leur histoire, parce qu'à la préfecture, ils demandent le nom de la grand-mère, du grand-père, de la sœur, de qui est où, qui est resté là-bas, qui habite où, les dates de naissance, etc., le parcours. Parcours aussi qu'ils ont effectué, les dates de départ de Syrie, les frontières qu'ils ont passées, quand et comment.
J'imagine que tout n'a pas été forcément rose.
Oui, évidemment, c'est une courbe, des hauts, des bas. Et globalement, on s'engage non pas sur une durée limitée, mais sur un accueil. Donc c'est sûrement un des aspects qui explique les hauts et les bas. Et parfois, certaines phases de peut-être découragement, usure, qui se sont développées, je dirais, vers le 3e mois peut-être, au moment où tout le monde, vraiment tout le monde attendait la réponse de l'OFPRA.
Okay. Ah. Là, il y a Oussama qui ouvre grand les yeux, OFPRA, au souvenir de ce cauchemar.
Donc voilà, beaucoup de stress, et c'est vrai que c'était quotidien, chaque jour la boîte aux lettres était scrutée, puis donc on sentait l'énergie négative qui envahissait Oussama El Ayal, qui pesait sur nous, on vivait les mêmes émotions, donc forcément on était là dans le plus grand bas qu'on ait vécu, puis après effectivement bien des hauts, la rentrée scolaire, On a accompagné tous les 2 garçons qui faisaient leur première rentrée tous les 2 dans la même classe.
Parce que votre plus jeune fils, donc à l'âge de Mazan, c'est-à-dire celui l'aîné d'Oussama.
Exactement.
Donc ils sont rentrés ensemble.
Ouais. Exactement.
Après une telle expérience forte, enrichissante forcément, vous vous dites, on va laisser un peu passer le temps, mais on l'a fait une fois, pourquoi pas une deuxième? Ou au contraire, il n'y avait qu'une famille à accueillir et c'est bien tombé, c'était celle d'Oussama. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette éventuelle question du renouvellement de l'expérience?
Alors, bah justement, on en discutait un peu hier soir et on se disait qu'on a envie de le refaire, mais qu'on n'est pas prêt, en fait.
Parce qu'on n'a pas fini.
Et parce que, voilà, on se disait, mais quelque part, on n'a pas fini, parce que Osama, il n'a pas encore de travail et qu'ils ont encore besoin de nous.
Nous sommes à la mairie du 20e arrondissement de Paris parce que c'est ici que se tiennent les permanences juridiques de l'association Revivre. Et ces permanences, évidemment, ont pour vocation d'accompagner les réfugiés dans leur parcours du combattant avec l'administration française.
Concernant les ressortissants étrangers, tapez 5. Pour tout renseignement sur le suivi d'un dossier individuel, vous contactez par courriel étranger au pluriel à tourmal-bar.fr. Un changement d'adresse à un duplicateur de titre de séjour. Tapez 1. Pour un
renseignement sur le voyage.
Sabrina Lrassas, responsable de la permanence des réfugiés syriens pour l'association Revivre. On connaît le risque de notre métier. Effectivement, travailler avec des réfugiés, c'est très difficile parce que on est en face de destins qui ont été quand même détruits, brisés. Donc ça, on le sait, mais ça fait partie de notre métier. En revanche, quand l'administration ne fait aucun effort et quand ça bloque au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de la CAF, que ce soit au niveau de la Sécurité sociale, que ce soit au niveau d'autres structures, là, franchement, même moi, j'ai beau avoir une expertise, j'ai beau être depuis 4 ans, je vous assure, ça, excusez-moi l'expression, ça me fait péter les plombs. Les problèmes sont encore plus graves et plus récurrents une fois qu'ils ont eu leur statut. Pourquoi ? Parce qu'il faut courir vers une inscription obligatoire de Pôle emploi. S'il n'y a pas une inscription de Pôle emploi, la CAF ne va pas considérer d'une manière sérieuse votre aide d'allocation familiale. Il faut se battre pour avoir des allocations spécifiques comme le PAJE, c'est-à-dire pour des enfants de 1 an à 3 ans, etc. Il faut les inscrire à l'école, il faut maîtriser le français, il faut faire des CV à présenter, mais faut-il encore que le français arrive à un certain niveau? Il faut se faire comprendre pour avoir une demande de logement social. Bon, l'administration française qui travaille avec les primo-arrivants, que ce soit des réfugiés ou que ce soit des étrangers, mais en tout cas des primo-arrivants qui vont être des primo-statutaires, n'est pas une administration adaptée à l'accueil des étrangers. Non. Mais vraiment, vraiment. Non.
Haïda! Ah, my friend, merci. Filas,
ça va? Ouais. Oui, un peu. Bonjour.
Bonjour.
Ah, Filas?
Yayazan.
Ah, il y a des gens qui attendent. Ah, non, alors, ça va. Ha,
ha, ha,
ba'at liki jusmo scan de l'ouati.
Donc, il y a 5 personnes. Est-ce qu'on sait exactement quand est-ce qu'ils vont arriver?
Oui.
Le 27 juillet, oui.
Le 27 juillet.
Oui.
Donc là, on parle d'une famille de 5 personnes qui est encore à Damas.
Là, malheureusement, c'est ce que je disais, je pense qu'ils vont leur donner un visa D, mais sans hébergement. Donc il va falloir qu'on se débrouille. Et moi, je vais chercher donc dans notre base de données s'il y a des familles ou s'il y a possibilité donne l'émergement. Ça ne veut pas dire que je vais réussir, parce que tout ça est très précaire. En revanche, je vais être franche avec toi, mais c'est parce que il faut que je te mette quand même à ma malheur, tu vois. Il faut vraiment que tu vois, je te dise exactement comment ça se passe. Je n'aurai pas au niveau de Paris et Île-de-France. Ça, c'est pas possible.
Ouais.
Okay. Ah, ça, c'est pas possible.
Pas de problème, oui, bien sûr.
Ok, Habaï.
D'accord.
Hagatan.
C'est ma carte de visite.
Mais non, Youni. Merci beaucoup.
Ok.
Merci. Merci.
Bien, bon. Je suis pas prêt.
Salam.
بس انتوا متاكدين انه 27
ايه حجزنا كل شيء
يعني الساعه كام تقريبا؟
الساعه
في جامعة ديجان.
Oui, bonjour Violette, c'est Sabrine de La Permanence Revivre. Voilà, j'avais besoin d'avoir un petit peu ton conseil ou probablement ton orientation pour un jeune donc statutaire, donc droit commun, en ce qui concerne un hébergement éventuel ou un logement, en tout cas des pistes. Est-ce que tu peux me rappeler, comme d'habitude, sur mon portable pro ? Merci, au revoir.
Ça, c'est des cas d'une fréquence folle. Ça doit arriver tous les jours, ce genre de cas.
Ah oui, oui.
C'est même la norme.
Oui, oui, oui. Ah bah oui, parce que ils prennent leurs papiers. Ils ont les papiers. On leur dit que vous avez le droit de maintenant comme tous les gens. Oui, sauf que ils ont le droit, mais n'ont pas l'accès à ce droit. C'est ça qui est problématique, au fait. Au fait, la France se contente de leur donner les papiers parce qu'elle part du principe que waouh, on leur a déjà donné des papiers. Oui, mais le suivi, l'accompagnement. C'est comme je vous disais tout à l'heure, Pôle emploi, mais là pour le logement, pourquoi on va mettre des conditions, les mêmes conditions qu'un résident ou qu'un citoyen lambda, des gens qui sont primo-arrivants? C'est inattendable. C'est pour ça que je dis, la France a un discours d'accueil, mais elle n'a pas une volonté d'accueil.
Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile.
Quand vous parlez de services débordés, saturés, on a du mal à réaliser, puisque les chiffres, en tout cas ici en France, sont loin d'être mirobolants et excessifs si on compare à ce qui s'est passé en Allemagne. Comment les services peuvent être débordés ?
Tout simplement parce qu'ils ne sont pas formatés pour accueillir un flux mesuré, mais en constante progression. Je suis frappé de voir la fragilité de nos très belles constructions administratives qui sont mises en péril par l'arrivée de 15 000 personnes supplémentaires. Regardez ce qui se passe à Paris depuis un an. 25 évacuations de campements, de demandeurs d'asile, de réfugiés, 12 000 personnes environ, mais qui ont mis dans une tension absolument invraisemblable tout l'appareil administratif ou politique. C'est invraisemblable, parce que quand vous prenez de la distance, l'Île-de-France, c'est un PIB qui n'est pas loin de celui des Pays-Bas, et quoi, on est mis en difficulté par l'arrivée imprévue. Je mets ça entre guillemets parce que franchement, il ne faut pas être grand devin pour savoir que le nombre de migrants et de réfugiés va augmenter dans notre pays. Eh bien, nous sommes mis en difficulté par 12 000 personnes parce qu'il n'y a pas d'anticipation. Il y a une espèce d'idée selon laquelle ça ira mieux demain. Et ça ira mieux demain, ben, il y en aura moins. Ben non, il n'y en a pas moins. Et donc, avec un peu d'anticipation, tout cela passerait quasiment inaperçu.
La belle mort.
Parce que le mot mort est féminin en français.
Oui, c'est ça.
Et puis ils ajoutent una katanaku.
Mais je pense qu'en plus, il y a des raisons religieuses qui font qu'on ne peut pas, en islam, autoriser l'euthanasie.
Oui, monsieur, il parlait de ça, avec des témoignages différents. Donc.
Tu comprends ça ?
Oui, très bien. Mais je pense que c'est un difficile sujet.
C'est un sujet difficile.
Sujet difficile.
Bien sûr. Dans toutes les langues, c'est un sujet difficile. Là, on est d'accord. En français, en arabe, en anglais.
Mabdo-sa'ab.
Une fois le statut de réfugié accordé, l'État s'engage à donner 200 et quelques heures de cours de français aux réfugiés répartis sur 6 mois, ce qui fait qu'au final, ce sont des cours assez basiques, le niveau atteint est assez scolaire et sert uniquement pour la vie quotidienne et en aucun cas pour rejoindre le marché du travail. Du coup, des initiatives parallèles se créent et c'est le cas à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, où chaque samedi, des échanges linguistiques se tiennent dans une salle de cours.
La Sierra, c'est un quatrième.
Ah, je n'aime pas le maté.
Tu n'aimes pas ?
Non, pas beaucoup.
Moi j'aime, mais je mets beaucoup de sucre.
Ah,
moi je ne sais pas, je ne suis pas un fan. Tu
n'es pas fan ?
Non, je n'en ai pas.
Au début,
j'en ai beaucoup bu, mais ça ne m'a jamais fait délirer.
D'accord. Et faut que je découvre aussi d'autres plats.
Forcément, réunir des Syriens et des Français dans une pièce, vous êtes sûr de parler nourriture à un moment ou comment
c'est... Oui, à un moment donné, c'est inévitable, quoi.
Les Français, j'ai pas encore compris pourquoi ils pensent qu'ils ont la meilleure cuisine du monde, quoi. Du riz de veau.
Je m'appelle Lisa Al-Chami, je suis professeure d'arabe en lycée et puis à l'université. Pour revenir sur l'historique du projet, il date d'il y a 3 ans. J'avais à l'époque des étudiants à l'université qui, comme dans tous les cours de langue à l'université, qui sont très mal faits, trouvaient qu'on pratiquait pas assez l'arabe. Et dans le même temps, je voyais arriver à Paris des réfugiés syriens. On avait réussi à inscrire une 40aine de réfugiés à l'université de Saint-Denis. Et quand ils ont eu terminé leur cours, ils ont dit, c'était très bien, mais il nous manque, on appelle ça en arabe, de la pratique, c'est-à-dire d'avoir vraiment des occasions de pratiquer. Et j'ai fait le lien entre ces deux publics qui se cherchaient et qui avaient les mêmes besoins.
Et ça donne ces rencontres, ces échanges du samedi après-midi. Ce sont des gens qui ont le statut de réfugiés, certains qui sont en demande et en attente du statut de demandeur d'asile.
Et le problème principal de l'accueil, entre guillemets, des réfugiés en France, c'est que ces gens arrivent ici, ils pensent qu'ils sont sauvés, que tout va aller très vite, et les démarches, ne serait-ce que pour avoir accès à des cours organisé par l'OFI, l'Office français de l'intégration et de l'immigration, ça peut mettre un an. Donc pendant un an, les gens sont dans une situation d'attente. Ils sont pressés de reprendre des études parce que la plupart étaient diplômés et qu'ils ont juste besoin de connaître la langue française. Pour carrément entrer sur le marché du travail, quoi. On est dans une situation vraiment absurde.
Alors on est sur un petit balcon pour une pause parce que j'imagine Hassan que la tête est pleine avec toutes ces heures à entendre des Français parler.
C'était très bien. Je vous parlais avec quelqu'un français et c'était bien conversation. J'espère que c'est bien pour nous et pour vous pour apprendre le français, pour apprendre l'arabe.
Tu es arrivé à Munich l'été passé, l'été 2015. Quand tu arrives en Allemagne, tu as vu l'OFPRA et l'OFPRA t'a dit quoi à l'époque ?
Elle a dit, bienvenue en France, tu peux venir avec nous et on peut te donner plein de choses.
Est-ce qu'aujourd'hui, un an après, tu as tout ça, l'aide, le logement qu'on t'a promis ?
Non, j'ai rien de tout. Et peut-être le papier, oui, ça va, c'était vite. Mais pour l'argent, pour vivre, mais il n'y a rien. C'était grande surprise.
Tu vis de quoi alors ?
Juste, je mange à centre d'hébergement et je dors là-bas. Et c'est tout.
Tu n'as pas de revenus ?
Non.
Tu as des papiers, pas de logement et pas de revenus ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu regrettes d'être venu ici ?
Oui. Un peu. Mais j'espère, peut-être, le futur, ça va aller. J'espère.
Dans le processus de demande d'asile, il y a 2 organismes qui interviennent. Il y a tout d'abord l'OFPRA qui va examiner juridiquement les dossiers et ensuite l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui va lui intervenir sur des questions plutôt liées à l'accompagnement et à l'accueil du réfugié.
Didier Lesky, je suis le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Au cours de ce reportage, la plupart de nos interlocuteurs, notamment venant du milieu associatif, ont été assez sévères avec les services de l'OFI en estimant qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de répondre à toutes les demandes et qu'ils vous ont trouvé débordés globalement. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Que personne ne pouvait anticiper l'ampleur de la crise et des besoins et que nous essayons de faire face du mieux possible. Aujourd'hui, nous hébergeons 43 000 personnes toutes les nuits et nous délivrons l'allocation pour demandeurs d'asile à 90 000 personnes. C'était 60 000 au début de l'année.
En termes d'hébergement, 43 000 personnes hébergées par vos services sur combien de demandeurs d'asile à peu près ?
80 000.
Donc il manque des places.
Il y a des besoins qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits et il y a la nécessité de construire et d'ouvrir beaucoup plus de places. C'est pour ça que le gouvernement vient d'annoncer encore le lancement de la création de 10 000 places supplémentaires qui vont s'ajouter aux 18 000 qui ont été ouvertes en 5 ans. Il n'y a jamais eu autant de places pour demandeurs d'asile ouvertes ces dernières années que pendant ce quinquennat. De toute façon, ce qui permettra de faire face à l'ensemble des besoins, c'est une mobilisation d'ensemble de la société. Les structures d'accueil de demandeurs d'asile, ce ne sont pas des structures où les gens peuvent vivre des années. Il va falloir une mobilisation du logement, des écoles, d'associations et de bénévoles pour faire apprendre le français. Et donc, tant que nous n'aurons pas une mobilisation d'ensemble de la société, notre capacité de mobilisation à l'OFI sera à chaque fois inférieure aux besoins.
La France propose plusieurs dispositifs pour les Syriens. Le premier est la relocalisation. Il vise à désengorger les centres d'accueil en Grèce. Il ne permet pas aux migrants de choisir le pays d'arrivée et il ne se montre pas très attractif pour l'instant. Ensuite, il y a le dispositif de réinstallation. Celui-ci s'adresse aux familles qui vivent dans des camps dans l'un des pays limitrophes de la Syrie. Et en résumé, pour venir jusqu'ici, ces familles sont choisies en quelque sorte par les autorités françaises. Au début de la crise migratoire, Paris avait promis 500 réinstallations, chiffre dérisoire, puis 1500. Aujourd'hui, l'objectif est de 10 000 sur l'année à venir. C'est dans ce cadre de réinstallation que la famille d'Ali est venue en France, à Mandagou, dans les Cévennes gardoises, un village de 400 habitants qui a voté en faveur de l'accueil d'une famille syrienne. C'était en septembre dernier. Mais Bassem, Fatem et leurs quatre enfants sont arrivés en avril seulement, au terme de 7 mois de lourdeurs et lenteurs administratives.
Francine Arbuste, je suis le maire de Mandagou. Fin août, une famille a quitté un logement communal. Et à ce moment-là, du moment qu'on avait un logement, on s'est mis à réfléchir à accueillir une famille. Et on a gardé cet appartement dans cette optique. Et on a même pris une délibération début septembre pour acter le fait qu'on allait accueillir une famille. Et on était prêts dès début septembre, on avait commencé à rechercher justement pour que la famille arrive rapidement. Et voilà, bon, après ça a été une histoire un peu petit peu plus longue que prévu.
Parce que la famille n'est arrivée que le 21 avril passé, donc 2016. Que s'est-il passé pendant tous ces longs mois ?
On a eu un peu de temps d'attente parce que la préfecture ne réagissait pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup d'interlocuteurs. Bon, il y avait aussi les élections régionales, le contexte national, des attentats qui n'ont pas tellement favorisé la venue des réfugiés. Donc on a eu la patience jusqu'à fin décembre. Et puis début de l'année 2016, les habitants se sont un peu regroupés pour nous motiver à attendre une famille. À partir de ce moment-là, on nous a proposé d'être la première commune à accueillir une famille de réinstaller. On a eu la promesse mi-mars pour le 20 avril. C'est la famille d'Ali qui est arrivée à ce moment-là.
À côté de vous, il y a votre premier adjoint, Emmanuel Grieux. Vous vous attendiez à ce que ce soit aussi long et compliqué qu'en début septembre, la délibération est votée, quand très vite vous apprenez qu'il y a effectivement des profils qui peuvent venir. Vous vous attendiez à autant de complications ?
Non. Non, on ne peut pas s'attendre à tant de complications. Non. C'est un geste tout simplement humain. C'est un peu l'initiative de cette prise de décision. À la base, c'est que c'était un mouvement humain. C'était tout à fait humble, d'ailleurs, au vu de ce qu'il reste encore à faire. Mais c'était un petit geste de notre part et c'était comme ça. Après, sur l'échelle de ce que ça peut déployer derrière, on ne peut pas s'imaginer déjà la durée d'étude du dossier. Ça, c'était inimaginable. C'est pour ça que ça nous a agacés, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a insisté là-dessus pour faire aboutir ce projet. Et après, il y a d'autres difficultés derrière qu'on ne pouvait pas imaginer. Moi, je l'ai souvent dit d'ailleurs, c'est quelque chose qui me fait peur. C'est-à-dire qu'on n'accueille pas, on n'accueille pas un petit oiseau ou un animal de compagnie. Là, c'est une famille qu'on accueille sur un village, ce sont des humains. C'est quelque chose de très complexe, c'est quand même de très lourd. C'est quelque chose qu'il a fallu appréhender sérieusement. Heureusement, ce collectif est arrivé, s'est formé, un noyau dur. Et là aussi, c'est un maillon indispensable. Indispensable sur la préparation et sur la réalité de tous les jours dans le village.
Il y en a un qui disait l'autre soir à une réunion... Si chaque commune avait accueilli une famille, on serait déjà arrivé au quota prévu par l'État français là, de 30 000 réfugiés à accueillir dans les 3 ans. On est assez fiers d'avoir pu mener ça au bout.
On va une montagne de gâteaux.
Bonjour, Jaco. Bonjour, madame.
Bonjour, ça Vanessa.
Vanessa. Bonjour,
Vanessa. Laïs.
Nice.
Bonjour, Yacine. Hein?
Bonjour.
Bonjour,
ça va bien? Toi, ça va?
Ça va un peu mieux.
Oui.
Ouais, et toi, ça va?
Oui.
Aujourd'hui.
Non. Tu as reçu aujourd'hui?
Ah oui,
à la poste.
Au poste.
Tu es à Montpellier.
Montpellier, oui.
À l'OFI.
Oui.
On t'accompagnera, on va voir qui t'accompagne. Mais le
19
juillet.
Juillet, oui.
C'est le contrat entre la France et toi.
Oui. Ok, Jaco.
Tu as compris?
Ah oui, oui.
Bassam, vous vous souvenez quand vous êtes arrivé pour la première fois dans ce logement de la mairie et de la municipalité de Mandagou, tout était meublé, etc. Mais vous vous souvenez de votre impression en arrivant ici, chez vous?
أول يوم حسينا إنه نحن أسا جديدين ما عملنا ريحانة مثل الضائعين مثل الزواحي دايخ
بس تاني يوم. Premier jour ils étaient le mot c'était vraiment perdu ils étaient perdus sauf que le lendemain il y a eu du monde il y a eu du mouvement dans la maison et du coup ils commençaient à se lâcher un petit peu et se relâcher un petit peu aussi.
Quand l'ambassade de France au Liban a sélectionné votre dossier, on vous parle de Montpellier. On ne vous parle pas de Mandagou. Donc, vous vous êtes renseigné sur Montpellier. Et sauf que vous arrivez dans un village de 400 habitants. Formidablement joli, ce village, puisqu'on est niché dans les Cévennes gardoises. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, comment vous avez réagi quand vous avez eu cette toute petite place, ce tout petit village de Mandagou ?
L'avantage qu'ils avaient, c'est que même en Liban, ils n'étaient pas dans une grande ville. Ils étaient dans les banlieues ou dans vraiment des petits villages qui n'étaient pas loin de la capitale. Et arriver ici, c'est vrai que c'était petit, mais la réception de ces gens-là, de ces habitants de ces villages, a fait que l'adaptation et l'intégration, ça a été très facile. Parce que les gens, ils n'étaient pas dans leur coin à dire bonjour juste pour dire bonjour. Mais non, c'était bien pour ça les a aidés d'aller vers les gens. Et finalement, ils se sont sentis des habitants de ce village. Ils disent qu'ils font partie de ce village maintenant. Voilà.
Vous voyez ici pour quelque temps encore.
Tant que les enfants s'y plaisent ici, oui, il n'y a pas de problème. Lui, pour lui, il n'y a aucun souci. Et s'il s'y plaît ici, il n'y a pas de problème. Non, il est content d'être ici.
Donc Fatem, qui est l'épouse de Bassem, il y a des moments quand même où, même si tout se passe bien dans le village, même si on a vu ce réseau tout autour de vous, est-ce qu'il y a des moments quand même où vous dites, on est quand même dans une culture différente, on est quand même isolé géographiquement, c'est quand même pas facile tous les jours? Ou est-ce que vous êtes sûr de votre du succès de votre intégration?
À Liban, ils ont connu cette situation de séparation de la famille, sa mère qui est en Turquie, les cousins, les frères, les sœurs, tout ça qui sont un peu partout dans le monde, parce que maintenant c'est un peu partout dans le monde. Et tout ce qui l'intéresse, c'est sa petite famille, son mari. Elle suit en fait sa petite famille. Elle est au soin de son mari, des enfants, tout ça. Les gens d'ici, qui c'est un peu sa famille maintenant, et le monde qu'on pense comme ça en fait. Elle est là, elle est contente. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa petite famille.
Hi, Isma Chakri. Farrouj.
Farrouj.
Chakri. Poulet. Oui. Oignon.
Oignon.
Sel. Huile. Non.
Huile.
Oui. Huile. Boutit.
Un peu, un petit peu.
Oui, oui.
Poulet halal.
Poulet halal.
Oui. Isma Kapsi.
Kapsi.
Oui, capsi.
Capsi, c'est du riz.
Riz au fulfol.
De poivron.
Oui. Au bar.
Les épices.
Oui.
Tariq, vous êtes l'un des très rares à pouvoir communiquer directement avec Bassem et Fatem, parce que vous parlez arabe. Vous êtes le seul à pouvoir encaisser ce qu'ils ont au fond d'eux. C'est pas trop dur quand même ?
Dur, non. C'est en fait, moi, quand je me suis engagé, c'était un engagement qui me faisait beaucoup plaisir. Je prenais plaisir à les aider, plaisir à leur parler, à traduire. Ça leur donnait en fait un peu de sécurité. Et ça me poussait, c'est ce qui m'aidait à aller plus loin avec eux. Le problème, c'est si je suis absent, on ne peut pas aller trop loin. Voilà, c'est ça qui m'inquiète le plus. Si je suis en vacances, si je pars en vacances, il n'y a personne pour eux. Et du coup, on ne peut pas vraiment faire la traduction qu'il faut. Et on ne peut pas faire le lien entre l'association et la mairie et l'école, tout ça. Et
le portable est branché en permanence.
Mon portable, il ne s'éteint jamais. Le soir, il a un vibreur, je l'entends, il est sur ma table de nuit. Mais voilà, ouais, il ne s'éteint jamais, mon portable. Ma femme le reproche, mais voilà. Elle me demande de le mettre un peu hors ligne, mais je peux pas, on sait jamais.
Salut Roger.
Puis lui aussi. Comment vas-tu?
Tu
connais Bassam?
Oui, quand même. Attends, on le connaît, hein. On s'amuse chaque semaine, hein.
Tu viens jouer au boule?
Oui.
Ah oui, je joue bien.
Ah oui.
Il a fait des
progrès.
Ah oui.
Vous le battez quand même?
Oh, ben on le bat, on ne le bat pas, ça va. Ça dépend des jours, ça dépend.
Vous installez quoi?
C'est pour la fête, mercredi, lumière.
Oui, Sam, l'autre jour, il nous a fait une démonstration des danses chez lui et tout ça. Et donc on lui a dit, mais là il va y avoir la fête, hein, écoute, tu vas pouvoir danser français. Il dit oui, puis il me prend dans ses bras comme ça, puis il me fait faire comme chez nous, quoi, en fait. Apparemment il sait bien faire. Là.
Je suis Bernard Piot, je suis un des membres fondateurs de l'association Bienvenue à Mandagou. Je m'occupe pas mal de soutien logistique aux familles accueillies à Mandagou.
Est-ce que tout ça s'est passé comme vous l'aviez imaginé ou est-ce qu'il y a eu des surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, dans les services que vous proposez à la famille, entre les attentes de la famille? Comment tout ça s'est lissé?
On a pris quelques claques. On avait prévu des besoins qui finalement n'existaient pas.
Et comme quoi, par exemple?
Au niveau des vêtements, en fait, ils sont arrivés, ils avaient déjà des vêtements alors qu'on avait commencé à en collecter. Au niveau de la langue, on était dans une grosse inconnue, on ne savait pas du tout quelle langue ils parlaient, donc on avait commencé à prendre des contacts avec des gens qui auraient voyagé en Orient, en essayant de trouver des gens de diverses langues, et finalement, il s'est avéré que les gens qui parlent l'arabe littéraire arrivent à communiquer parfaitement avec eux. Il y a surtout pas mal de choses qu'on n'avait pas prévues, et notamment, on s'en aperçoit en ce moment, c'est que maintenant qu'ils sont installés, les problèmes de santé commencent à ressurgir. En général, ils n'apparaissent pas dans les premiers temps, mais beaucoup de choses se révèlent. Le corps finit par parler, quoi. Mais bon, on était relativement prêts et surtout, on était assez nombreux au début pour pouvoir, par connaissance, arriver à mettre la main sur toutes les ressources dont on a eu besoin au fur et à mesure.
Annie Lopez, vous aussi, vous êtes membre de cette association BAM, hein, Bienvenue à Mandagou, c'est comme ça que l'association s'appelle, on ne l'a pas dit encore. Et vous êtes plus particulièrement, on va dire, une référente pour cette famille. Est-ce que parfois, vous vous dites, je ne vais pas y arriver
Non, c'est très positif en fait. Je n'avais pas envisagé de m'investir autant, mais aussi la relation est tellement superbe que c'est un échange et on est aussi... On reçoit aussi beaucoup. On est tombé sur une famille aussi qui est très respectueuse aussi de ce qu'on est, qui a envie de s'investir, de s'adapter. Je crois que ce qui a été important aussi, c'est que ça a créé du lien dans le village et tout autour de nous. On est plus proches. Même s'il y avait une bonne entente, s'il y avait des rencontres qui se faisaient, on allait toujours vers les uns, vers les autres, enfin les mêmes. Selon les activités, tout ça. Alors que là, à travers cet accueil, ce sont des gens de tous bords, que ce soit politique, que ce soit religieux ou des choses comme ça, et donc qui nous ont permis de se rencontrer alors qu'on ne faisait que se côtoyer.
On
Alors, nous voici en voiture parce que parmi les nombreuses missions d'accompagnement de l'association, il y a toute la gestion concernant les déplacements entre ici, Mandagou, et la ville d'à côté qui s'appelle le Vigan, qui est à une dizaine de kilomètres d'ici. Et il faut évidemment une logistique assez importante pour permettre les déplacements. Alors, ils peuvent être médicaux quand il y a des rendez-vous chez le médecin. Et ils peuvent être aussi beaucoup plus dédiés aux loisirs. Et c'est le cas ce matin puisqu'on accompagne les deux aînés de la famille au centre de loisirs.
Donc voilà, c'est une famille donc, qui est à Mandagou, c'est une famille syrienne. Par contre, au niveau du langage, déjà, l'aîné comprend, parle très bien, un petit peu moins bien pour la riche, mais enfin, ça, je vous ferai confiance, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'on n'avait pas signalé, je crois, c'était pour les repas de midi, parce qu'ils ne mangent pas de viande, en fait. Enfin, ils mangent halal, donc c'est pas de viande, en fait. Hein.
Okay. Pas de souci, c'est bon.
Réfugié syrien, la deuxième vie, un reportage de Vanessa Descoureaux, mixage Manuel Couturier, réalisation Anne Liro, assistée de Stéphane Combe, à retrouver sur franceinter.fr grâce à Zora Ben Smaili. Bon dimanche, tout de suite le journal de 10h, à la semaine prochaine.